Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va s'envoler d'ici peu pour Washington où il va rencontrer le président américain Donald Trump. Le chef du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper, aurait recommandé l'arrêt des bombardements autour du détroit d'Ormuz. Le président du MR, George-Louis Boucher, a rencontré Reza Pahlavi, le fils du Shah. C'était vendredi matin à Paris. Et puis enfin, l'Ukraine a revendiqué une frappe contre un navire iranien transportant des armes vers la Russie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va s'envoler d'ici peu pour Washington où il va rencontrer le président américain Donald Trump. Une visite éclair dominée par les enjeux sécuritaires du Moyen-Orient, l'Iran en premier lieu, mais aussi Gaza et la Judée-Samarie. Officiellement, le chef du gouvernement israélien sera aux États-Unis pour assister aux obsèques du sénateur républicain Lindsey Graham, figure historique du soutien à Israël. Mais en réalité, Jérusalem souhaite renforcer sa coordination stratégique avec Washington tout en affichant une unité face aux menaces régionales. Et puis le Premier ministre israélien, de son côté, redoute une intensification des pressions américaines en faveur de nouveaux retraits israéliens au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza. Avant son départ, le cabinet de sécurité a toutefois approuvé les modalités de déploiement d'une force internationale et de stabilisation dans les futures zones humanitaires de Gaza. Les premiers contingents composés de 200 représentants marocains et ougandais devraient intervenir exclusivement dans des secteurs ne relevant pas du contrôle du Hamas et en coordination avec Tsahal. Le chef du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, aurait recommandé l'arrêt des bombardements autour du détroit d'Ormuz. Selon le site Axios, il estimait que la campagne avait atteint ses limites dans sa forme actuelle après 2 semaines de frappes ayant fortement réduit la capacité de l'Iran à menacer les navires marchands. Pour neutraliser les 20% des cibles restantes, Washington aurait dû relancer une opération beaucoup plus massive. Cette analyse aurait directement pesé dans la décision de Donald Trump de suspendre les frappes contre l'Iran. Le président américain a démenti avoir agi par manque de munitions. Un calme très fragile règne désormais dans la région. Téhéran promet de ne pas attaquer tant que Washington en fera autant, tandis que les États-Unis laissent la porte ouverte à une reprise des discussions. En Israël, les responsables sécuritaires restent sceptiques sur les chances d'un accord et les services de sécurité demeurent en état d'alerte. Le président israélien Yitzhak Herzog s'est lui entretenu avec le roi de Bahreïn, Hamad bin Issa al-Khalifa, un échange téléphonique consacré au renforcement des relations bilatérales et à la situation régionale. Nous avons évoqué le renforcement de l'amitié et des relations de plus en plus étroites entre Israël et Bahreïn, ainsi que de l'importance des accords d'Abraham sous l'impulsion des États-Unis pour renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité dans l'ensemble du Moyen-Orient. C'est ce qu'a déclaré le président israélien dans un message publié sur X. Bahreïn a rejoint les accords d'Abraham le 15 septembre 2020 aux côtés des Émirats Arabes Unis. Les deux dirigeants ont également discuté des derniers développements dans la région et ont souligné l'importance du dialogue et de la coopération entre les pays du Moyen-Orient. La coopération militaire entre Washington et les monarchies du Golfe atteint, elle, un niveau inédit. Les États-Unis cherchent à consolider un véritable bouclier régional face aux capacités balistiques et aux drones iraniens, tout en renforçant leur influence stratégique au Moyen-Orient. Les ventes d'armes américaines aux pays du Golfe ont atteint 41 milliards de dollars au premier semestre 2026, contre seulement 9 milliards un an plus tôt. Un chiffre qui traduit les enseignements tirés des attaques iraniennes. Les États du Golfe concentrent leurs investissements sur la défense aérienne, les radars et les systèmes de commandement afin d'améliorer leur capacité à détecter et intercepter des salves de drones et de missiles balistiques. Plusieurs milliards supplémentaires financent la modernisation des avions F-15, des avions ravitailleurs KC-130J et l'acquisition d'intercepteurs Patriot. L'Arabie Saoudite demeure le principal moteur de cette dynamique. Riyad a augmenté son budget de défense de 26% dès le premier trimestre 2026 et pourrait encore accroître ses achats si les tensions avec l'Iran persistent. Et puis toujours à propos de l'Arabie Saoudite, les Houthis concentrent eux leurs attaques verbales contre ce pays plutôt que contre les États-Unis ou Israël. Israël, notamment des frappes contre l'aéroport d'Aba, des navires ou encore des drones saoudiens. Pour autant, le mouvement n'abandonne pas sa rhétorique traditionnelle. Son slogan officiel reste « Mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, victoire à l'Islam ». Le chef des Houthis, Abdelmalak al-Houthi, continue d'accuser les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël d'encourager Riyad à intensifier la guerre contre le Yémen. Mais selon une source de Sana, les dirigeants Houthis ont demandé à leurs partisans d'unifier leur discours autour de la confrontation avec l'Arabie Saoudite, car l'Iran cherche à exercer une nouvelle pression sur le détroit de Bab al-Mandeb. En recentrant leur propagande contre Riyad, les Houthis prépareraient ainsi l'opinion publique à une nouvelle phase du conflit. Et puis toujours autour de ce conflit, le président du MR en Belgique, Georges-Louis Boucher, a rencontré Reza Pahlavi, c'était vendredi matin à Paris. À ses yeux, le fils du Shah d'Iran doit être considéré comme un des interlocuteurs importants de l'opposition iranienne en vue de la transition en cas de chute du régime des Mollahs. « Je n'en vois pas d'autres qui émergent », a-t-il estimé, soulignant qu'il ne se présente pas comme le potentiel futur dirigeant du pays, mais comme une personne en capacité d'assurer la transition. « On doit tous œuvrer à la chute de ce régime. Ceux qui disent que cela ne nous concerne pas sont soit naïfs, soit ils manipulent », c'est ce qu'a ajouté Georges-Louis Boucher. Toujours selon Georges-Louis Boucher, la diplomatie belge devrait s'entretenir avec Reza Pahlavi dans une prise de contact non exclusive. De plus en plus de groupes de l'opposition iranienne se rassemblent autour de sa personne, a expliqué Georges-Louis Boucher, qui entend également l'inviter à Bruxelles. Des sources haut placées au sein du ministère israélien de la Défense entrevoient des opportunités de collaboration entre Israël et le Caire pour contrebalancer les intérêts navals d'Ankara face à l'Iran qui étouffe les intérêts économiques mondiaux au détroit d'Hormuz et à la montée en puissance de la Turquie en Méditerranée. L'État hébreu et l'Égypte pourraient finir par se rendre compte qu'ils ont intérêt à coordonner davantage leurs efforts contre toute ingérence d'Ankara dans la région. Bien sûr, d'autres scénarios moins optimistiques existent. Le ministre égyptien de la Défense s'est rendu à Ankara le 13 juillet, ce qui, selon certains observateurs, a marqué un profond changement structurel dans la géopolitique de la Méditerranée orientale. Et puis ce discours pessimiste affirme que l'Égypte et la Turquie se rapprochent et pourraient former un contrepoids à l'État hébreu. Jusqu'à présent, la Turquie et l'Égypte ne voulaient pas avoir affaire l'une avec l'autre, même si le Caire n'a pas non plus aidé Jérusalem contre Ankara. Recep Tayyip Erdogan et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ne se supporte pas. Abdel Fattah al-Sissi reprochait à Erdogan de soutenir les frères musulmans qui avaient pris le pouvoir en Égypte de 2012 à 2013, tandis que le président turc reprochait au président égyptien d'avoir chassé les frères musulmans du pouvoir. Mais la Turquie et l'Égypte ont chacune tiré profit l'une de l'autre, en particulier ces derniers mois. Abdel Fattah al-Sissi s'assure un accès à une technologie militaire de pointe fournie par la Turquie, tandis que Recep Tayyip Erdogan gagne un partenaire conventionnel de premier plan pour légitimer ses ambitions maritimes. De plus, la coopération militaire entre le Caire et Ankara a rapidement évolué, passant d'une diplomatie superficielle à une intégration structurelle profonde. Leurs manœuvres conjointes de ces dernières semaines ont révélé ce qui semblait être un niveau alarmant d'alignement opérationnel face à ces menaces potentielles. La marine israélienne a donc renforcé sa stratégie offensive. Opération lointaine du commando Shayet 13, coopération accrue entre le Mossad et le Shin Bet, lutte contre les Houthis et traque des dernières capacités navales du Hamas. Direction la France aujourd'hui, où Emmanuel Macron a présidé ce matin à 10h une cellule interministérielle de crise consacrée aux incendies qui touchent plusieurs régions françaises. Une réunion qui a permis de coordonner l'action des ministères, des services de secours et des autorités locales face à cette saison de feu d'une ampleur exceptionnelle. La France qui traverse l'un des pires épisodes de feux de forêt depuis son histoire récente. Selon les autorités françaises, plus de 220 000 personnes ont été évacuées en Gironde depuis le début du sinistre, tandis que les flammes ont déjà détruit près de 42 000 hectares de végétation et se sont dangereusement rapprochés de Bordeaux. Au total, plus de 250 000 habitants ont dû quitter leur domicile dans le sud-ouest du pays. Selon le ministre de l'Intérieur, le pays enregistre quotidiennement entre 30 et 40 départs de feu, une situation qualifiée d'inédite par le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez. Dans le reste de l'actualité maintenant, l'Ukraine a annoncé revendiquer une frappe contre un navire iranien transportant des armes vers la Russie. L'Ukraine a confirmé avoir mené cette frappe contre un navire iranien donc en pleine mer Caspienne qui transportait selon Kiev des composants destinés à la fabrication de drones et de missiles pour la Russie. Le ministère iranien des Affaires étrangères affirme qu'un marin a été tué et un autre blessé lors de l'attaque qu'il a qualifié d'acte d'agression susceptible d'aggraver le conflit. L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Kornichuk, a déclaré à la 12e chaîne nationale que le bâtiment ne transportait pas de marchandises civiles comme le soutien de Téhéran, mais bien du matériel militaire. Nous pouvons nous attendre à frapper à nouveau ce type de cible, a-t-il affirmé, estimant qu'il s'agit d'objectifs militaires légitimes. Le président Volodymyr Zelensky a salué les très bons résultats des frappes ukrainiennes à longue portée en mer Caspienne. En réaction, des canaux iraniens et pro-iraniens ont appelé à des représailles, certains évoquant même des tirs de missiles contre l'Ukraine. Une nouvelle escalade qui intervient sur fond de coopération militaire croissante entre Moscou et Téhéran. On termine ce journal avec l'actualité en Allemagne. C'était hier, après l'attaque meurtrière lors de la Pride de Berlin. Les autorités allemandes ont qualifié les faits d'attentat terroriste islamiste. L'homme suspecté d'être l'auteur de l'attaque a été tué par la police hier. Samedi soir, un véhicule avait foncé sur la foule à la marche des fiertés de la capitale allemande, faisant au moins un mort et 29 blessés. Vers 18h, le suspect de l'attentat dans le Grand Tiergarten a pu être localisé dans le quartier de Spandau, c'est ce qu'a fait savoir la police. Il aurait couru vers nos forces d'intervention avec une arme blanche, ce qui a conduit à l'usage d'armes à feu par la police. Malgré les mesures de réanimation immédiates entreprises par les pompiers de Berlin, il est décédé sur place, selon donc la police.